Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Christophe Salomon. Tu es physicien, n'est-ce pas ?
Bienvenue.
Et donc, comme tout physicien, tu aimes bien mesurer. Mesurer les choses, les longueurs, les poids, les intensités, les champs électriques.
Les intervalles de temps.
Les intervalles de temps, etc. Aujourd'hui, nous allons discuter d'erreurs. Parce que, comme tu le sais, puisque tu vas en faire partie, l'Académie des sciences organise un colloque sur le thème de l'erreur dans les sciences. Et nous allons parler aujourd'hui d'une erreur incroyable, du naufrage d'un bateau du XVIIe siècle. Raconte-nous cette histoire.
Ah, c'est une histoire assez extraordinaire. Il s'agit du Vasa. C'est un bateau commandé par le roi Gustave II Adolphe de Suède dans les années 1625, dans le port de Stockholm, à des constructeurs d'origine hollandaise.
Un bateau de guerre.
Un bateau de guerre, ah oui, je vais y venir, un galion, qui doit être très prestigieux, avec 61 mètres de long, 69 mètres au total, 1200 tonnes de déplacement d'eau, 4 ponts, dont 2 ponts de canon, ce qui ne se faisait pas beaucoup avant. Et vous verrez, ça jouera un rôle dans l'histoire qui va suivre. Des canons puissants qui livraient des boulets de 24 pounds, une douzaine de kilos, hein, je crois, dans l'unité des livres, qui n'est pas l'unité du système international d'ailleurs.
C'est très important parce qu'on va précisément parler des unités.
Absolument, on va parler des unités après. Alors, ce Vasa, le jour de son inauguration, il est mis à l'eau devant une foule considérable au large de Stockholm. Hein, c'est plein d'îles, hein, la baie de Stockholm. Il part avec beaucoup de gens à bord, y compris des membres, non seulement l'équipage, mais des membres de leur famille, des soldats, bien sûr, puisque c'est un bateau de guerre, hein, trois mâts avec des voiles magnifiques. Et au premier coup de vent, il gîte fortement. Mais c'était des tout petits coups de vent. On était au mois d'août 1628, et au deuxième petit coup de vent de l'ouest, il gîte à bâbord et il fait naufrage en quelques dizaines de minutes. Alors, c'est une catastrophe quand même, hein. Il y a une trentaine de victimes, hein. Il y avait beaucoup de bateaux aux alentours, donc ils ont... Beaucoup de gens et membres d'équipage ont pu être sauvés, mais néanmoins pas tous.
Sachant qu'à l'époque, beaucoup de gens ne savaient pas nager tout simplement.
Ils ne savaient même pas nager. On ne peut pas dire que l'eau était super froide parce que c'était au mois d'août, mais quand même, c'est surtout ça. Mais il y avait beaucoup de bateaux aux alentours pour accompagner la sortie de ce navire magnifique à l'effigie du roi Gustave II Adolphe. Et donc, grosse catastrophe. Donc il y a eu une enquête. Une enquête qui a été diligentée par le conseil de la ville de Stockholm. Et alors, cette enquête était amusante parce que la première partie, c'était le bateau était mal conçu, mais les plans avaient été approuvés par le roi.
Donc, ils étaient bien conçus.
Donc, il était bien conçu. Ce bateau est resté 330 ans sous l'eau et on l'a ressorti dans les années 50. Il a été retrouvé dans les années 50 et il a été renfloué, comme on dit, remonté à la surface en 1961, il y a donc 333 ans après son naufrage.
Donc tout le monde savait bien qu'il était là, mais c'était compliqué d'aller le chercher, quoi.
Oui, alors les premiers, c'est amusant, les canons avaient beaucoup de valeur à l'époque. Et donc, je crois, une trentaine, entre 20 et 30 ans après... Ils ont été repêchés les canons. à l'époque, hein, en 1660, 1668, je ne me souviens plus exactement, une cinquantaine de canons sur les 64 qui étaient à bord ont été récupérés. Donc, ils savaient bien où ils étaient.
Mais à l'époque, il n'y avait pas de scaphandrier.
Absolument, absolument. Donc, ils se sont débrouillés, je ne sais pas très bien comment. Et puis après, c'est tombé dans l'oubli. Les parties qui émergeaient encore un peu ont été rabotées pour laisser passer
les autres bateaux.
Les autres bateaux. Et puis, c'est tombé dans l'oubli. Il y a bien eu quelques tentatives de gens qui voulaient aller le retrouver. Et puis, c'est dans les années 50, un Suédois a refait des sondages avec son fil à plomb. Et puis, il a retrouvé donc, le site exact du Vasa, qui s'était un petit peu perdu. Hein, c'était dans l'histoire commune, mais le site exact s'était un peu perdu. Et alors, renflouer un bateau de cette tonne-là, à moitié enfoui dans la boue, plusieurs siècles après, ça a été une drôle de paire de manches. La méthode est absolument magnifique. C'est-à-dire qu'on met deux bateaux à côté, qui sont rigidement reliés ensemble. On passe un câble, plusieurs câbles, sous la coque, en perçant des trous dans la boue, etc. On remplit ces bateaux d'eau. Et ensuite, on pompe l'eau à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, les bateaux montent.
Force d'Archimède.
Force d'Archimède, précisément. Poussée d'Archimède. Les deux bateaux montent et le Vasa qui est entre les deux câbles est soulevé vers le haut. Alors, il n'est soulevé que d'un mètre à peu près par coup. Et on recommence. À ce moment-là, il est un petit peu tiré dans un endroit où il y a moins de fond. Et on recommence la manœuvre. Ça se répète comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à le tracter.
Rappelle-moi le tirant d'eau de ce bateau.
5 mètres, quelque chose comme ça. Et donc, oui, une hauteur totale assez impressionnante. Je n'ai pas donné les chiffres, j'ai parlé juste de la longueur. Mais la largeur, qui est justement un paramètre important sur lequel je voudrais venir maintenant, était de l'ordre de 12 mètres. Donc c'était un bateau, une coque un tout petit peu trop ronde.
Et ce bateau est aujourd'hui exposé de manière
voilà, glorieuse. Alors c'est une fierté de Stockholm, comme quoi on transforme un désastre en un musée qui attire des millions de visiteurs.
C'est un peu la Tour Eiffel de Stockholm.
C'est la Tour Eiffel de Stockholm, exactement. Alors il est magnifique, je l'ai vu, je l'ai visité fin des années 90. Énormément de choses qui étaient encore en bon état, sauf les parties métalliques qui avaient bien sûr rouillé dans l'eau. L'histoire dit que les boulets de canon avaient perdu la moitié de leur masse sur 300 ans, simplement par la rouille et la...
Par contre, le bois...
Le bois était complètement...
Préservé.
Complètement préservé.
Donc il y a eu cette enquête qui a été menée, on a conclu qu'on ne pouvait pas critiquer le roi parce que les plans ils avaient été validés par le roi, et on s'en est tenu là.
Alors évidemment, le capitaine avait été aussi attaqué sur le moment. On lui a demandé des choses très amusantes. Est-ce que tous les canons étaient-ils bien arrimés ? Est-ce que vous avez mis une voilure adaptée à la petite brise du jour ? Est-ce que l'équipage avait bu ? Oui ou non ? Donc là, il y a eu beaucoup d'enquêtes. Tous les capitaines ont été aussi interrogés. Non, ils n'avaient pas bu.
Donc il n'y a pas eu de conclusion définitive.
Donc il n'y a pas eu de conclusion. Et il se trouve que le maître d'ouvrage était décédé quelques mois avant. Et donc on n'a pas pu se retourner vers lui. Et donc aucun coupable n'a été désigné, malgré l'injonction du roi de dire qu'il y avait eu beaucoup de négligence et que les coupables devaient être sévèrement punis. Mais le conseil de la ville n'a pas trouvé de bouc émissaire suffisant, autre que celui, le malheureux décédé. À l'époque, ça coûtait une fortune. Le port de Stockholm avait environ 500 ouvriers qui travaillaient en permanence, parce que le roi Gustave II il était en guerre avec la Pologne pour le contrôle sur la mer Baltique et des choses comme ça. Donc il voulait recréer une flotte suédoise digne de ce nom. Donc il avait une commande d'une vingtaine de bateaux. Et donc j'en viens aux unités de mesure et aux erreurs de mesure, parce que les ouvriers, ça a été un chantier archéologique magnifique, hein, de retrouver le Vasa. Donc ils ont retrouvé les mètres utilisés. Alors c'était pas des mètres, c'était des pieds. Et il y avait deux modèles de pieds.
Donc, ce n'étaient pas des maîtres pour une raison évidente, c'est qu'ils n'étaient pas encore inventés.
Oui, le maître, la convention du maître n'existait pas. Donc, on parlait en pieds, en inch, en coude. Et donc, il y avait deux unités de mesure. Un qui faisait à peu près 29,5 cm et l'autre qui faisait 31 cm. Et donc, le bord bâbord du bateau était beaucoup plus lourd que le bord droit. Et ça, ça jouait un rôle très important. D'une part, et donc une des hypothèses, c'est que la partie gauche a été dimensionnée différemment de la partie droite, avec des matériaux plus longs. Et donc ça, c'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'on l'a retrouvé intégralement.
Ça voudrait dire que les ouvriers, peut-être qu'ils étaient par nationalité, peut-être à gauche et à droite, à bâbord et à tribord.
Alors ça, on ne sait pas si c'est la cause principale. Bon, la cause principale, c'était que le centre de gravité du navire était trop haut par rapport au centre de poussée. D'accord. Alors là, on peut se demander... Pourquoi on a le droit de mettre le centre de gravité au-dessus du centre de poussée? Mais oui, c'est pas une erreur de le mettre au-dessus. Mais il faut pas le mettre trop au-dessus. Alors l'explication est un peu simple. Je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails ici, mais un bateau, ça dépend beaucoup de la forme du bateau. On comprend bien qu'un bateau en forme de rondin ne va pas être très stable en rotation. Et donc les bateaux ont une coque avec un certain profil. Et plus la coque est plate... plus elle est insensible aux petites oscillations. On parle de petites oscillations, on ne parle pas d'un chavirage. On le connaît bien avec les trimarans, les monocoques les catamarans. C'est très stable, et puis à un moment donné, boum, ça bascule.
Donc en clair, si un bateau assez plat penche d'un côté, la partie qui penche va être plus dans l'eau, donc une poussée d'Archimède plus forte, ce qui va rétablir en quelque sorte.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Et donc ça rétablit un couple, et donc ça tolère que le centre de gravité soit éventuellement au-dessus du centre de poussée. Il n'y avait pas de grosses quilles à l'époque, ils mettaient des ballasts au fond du bateau, mais ils n'avaient pas compris. C'est bien plus tard, c'est 100, 150 ans plus tard, que les gens commençaient à écrire des équations et des couples et des moments.
Est-ce que tu me permets une petite remarque mathématique sur un problème qui a été posé au début du XXe siècle? C'est la question suivante. Quand tu mets un objet dans l'eau, il va flotter dans une certaine position. Bien sûr, si tu mets une sphère, une boule, elle flotte dans toutes les positions. Est-ce qu'il existe d'autres objets non sphériques qui ont la propriété de flotter dans n'importe quelle position? Pendant longtemps, on a pensé que seule la sphère avait cette propriété. Et il y a à peine 10 ans, un mathématicien a trouvé une solution d'un objet un peu patatoïde qui flotte dans toutes les positions sans être une sphère.
J'en reviens finalement à la suite de l'histoire qui est vraiment amusante, c'est-à-dire qu'une fois que le bateau a été renfloué, c'était un objet archéologique passionnant. Et donc le musée de Stockholm, il y a un monsieur Hock, je crois, qui a passé 15 ans de sa vie à étudier, à réparer tous les... pour essayer de le remettre dans la situation de l'époque. Et quand on regarde les photos... Donc, je vous encourage à aller voir ce musée à Stockholm, bien sûr. On voit tout l'apparat qu'il y avait sur le château arrière, et à la fois le savoir-faire, mais artisanal.
Et artistique.
Et artistique, exactement, avec des décorations splendides, des mâts. La hauteur totale, c'est 50 mètres quand même.
De la quille qui n'existait pas jusqu'en haut. Quoi.
Voilà. Et alors, en fait, il y a plein de voiles qui n'ont jamais servi. Et ce bateau a sombré après 1300 mètres. Il n'a navigué que 1300 mètres dans la mer. Donc c'est ça le paradoxe le plus amusant.
Et faisons un tout petit peu d'histoire des sciences. On est au XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'on sait sur les forces, les équilibres, les couples, la poussée d'Archimède, le centre de gravité, le centre de poussée, toutes ces choses qui sont, entre guillemets, évidentes pour nous aujourd'hui? On ne savait rien à l'époque, non?
Alors, ça se faisait. Alors, ce bateau, c'était une copie d'un bateau, d'un galion français qui s'appelait le Guise. Et il avait la bonne forme. D'ailleurs, le Vasa a eu un bateau jumeau aussi, pour lequel ils ont élargi d'1 mètre. Hein, et celui-là a navigué normalement pendant une trentaine
d'années. Donc il n'y avait aucune théorie, quoi, les architectes.
Théorie, non, c'est la théorie de. Et après, ça dépend du degré de détail, mais la notion de quille vraiment n'existait pas à l'époque. Ils mettaient du poids en bas, mais c'était très intuitif. Hein, et néanmoins, ils ont fait des navires.
Qui ont traversé l'Atlantique.
Oui, absolument. Épatant, par intuition, essai et correction. Mais là, alors, le point que je voulais souligner aussi, c'est que une partie de cette catastrophe, oui, c'est intéressant, une partie de cette catastrophe vient du fait que le roi n'était pas présent et a mis beaucoup de pression sur la réalisation de ce bateau. Il voulait que ça sorte vite. Il avait approuvé les plans. Alors, je ne rentre pas dans les détails, il y avait un bateau plus grand, un bateau plus petit, puis ils sont arrivés à ce bateau-là. Mais il était à distance, il envoyait des courriers pour que le bateau sorte le plus vite possible. Avant le lancement, l'inauguration, le capitaine Hanson a voulu faire un essai de stabilité devant le vice-amiral de la flotte suédoise. Il a pris 30 hommes qu'il a fait courir sur le pont supérieur, d'un côté à l'autre du pont supérieur, à droite, à gauche, à droite. Et au troisième aller-retour, le bateau gitait tellement qu'il a arrêté l'essai. Et donc, il avait. Et le vice-amiral dit je regrette que le roi ne fût pas présent. C'est-à-dire que personne n'a osé rapporter au roi que cette mesure, cette instabilité. Parce que faire courir 30 hommes, hein, ça déplace 240 kilos.
30 hommes qui pèsent 240 kilos, cela fait 8 kilos par homme. Je crains que notre physicien se soit trompé d'un facteur 10. Il voulait dire, bien sûr, 2400 kilos. Mais nous lui pardonnons, et de toute façon, cela ne change absolument rien au raisonnement.
À droite, à gauche, sur un bateau qui déplace 1200 tonnes, ça ne fait pas beaucoup. Donc, ça l'avait inquiété, mais il n'a pas osé transmettre son inquiétude au roi. Donc, la pression politique, tu vois, du commanditaire a joué un rôle majeur.
Le vice-amiral n'a pas osé.
Voilà, il n'a pas... Personne, ni le vice-amiral, il a juste regretté que le roi ne fût pas présent.
Parle-moi un peu de ces unités de mesure. C'est des pieds, essentiellement 29,5 cm ou 31 cm. Alors, c'est la taille du pied du roi.
Oh là, alors ça, c'est une toute autre histoire, absolument passionnante. Et là, on a eu une conférence magnifique il y a quelques années à l'Académie là-dessus. Et je crois que c'était Daniel Handler, je crois, qui avait fait un exposé. Figurez-vous qu'à l'époque de Louis XIV, en France, hein, donc. Pratiquement à cette époque-là, il y avait plus de 100 000 unités utilisées sur le royaume de Louis XIV. Et la boutade de Louis XIV disait « Je ne sais pas quelle est la surface de mon royaume. Allez mesurer ça. » Voilà. Et en fait, alors, il y avait les unités de distance, hein, donc le coude, le pied, la toise... Et les unités de volume, alors là, toutes sortes, hein, parce qu'il y a les volumes liquides, les arts, les hectares, les unités de surface, tu vois. Donc tout ça était un grand désordre et c'est finalement l'Académie des sciences qui a joué un rôle très important au moment de la Révolution pour mettre tout ça en ordre et puis introduire la notion du mètre comme une partie du méridien terrestre. C'est une autre histoire, ça.
C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais c'est une histoire magnifique. Peut-être qu'on pourrait presque dire, je ne sais pas si tu serais d'accord, que c'est peut-être l'une des plus belles aventures de l'Académie des sciences.
Ah oui. Oui, par le rôle qu'elle a joué au niveau...
Universel.
Universel, voilà. C'est un exemple d'universalité qui a conduit à la Convention du Mètre, à la création d'un Bureau international des poids et mesures, une des premières instances internationales qui visait à unifier justement ces unités au bénéfice du commerce international, parce que toutes ces erreurs d'unité, on en a eu un exemple avec le Vasard, conduisent à des pertes en commerce, ou même plus graves, absolument considérables.
quelle musique recommanderais-tu pour illustrer cette catastrophe ?
La tempête de Beethoven. Mais ceci dit, le naufrage du Vasa était par calme quasi plat.
Merci beaucoup, Christophe. Alors, à la demande de Christophe, vous avez écouté des extraits de la sonate numéro 17 en ré mineur, opus 31, de Beethoven, dite « La tempête », interprétée par le pianiste Guillaume Bellhomme.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.